Il y a dans la Bible plusieurs exemples, mais j'ai eu à cœur en cet après-midi de vous parler au sujet d'un homme qui s'appelle Pierre. Et je vous inviterai à lire avec moi dans Matthieu chapitre 14, verset 22, et puis nous irons jusqu'à la fin à peu près de ce texte. Voilà. Bien sûr, dans ce texte, il n'y a pas que Pierre. Et vous l'avez certainement saisi et compris, il y a aussi celui qui peut tout, c'est-à-dire Jésus. Voilà, je pense que vous avez trouvé, il est dit ceci, en parlant de Jésus, « Il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur cœur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu !» Ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Amen. Gloire à Dieu. Nous arrêtons là notre lecture, car c'est cet épisode, on va dire, de l'apôtre Pierre que nous voulons souligner, mais surtout souligner la présence du Seigneur Jésus. En lisant cette lecture, cet épisode, de la vie de Pierre, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des petites vérités qu'il nous faut souligner parce que ça pourrait concorder à la vie d'aujourd'hui. Vous avez remarqué que le Seigneur Jésus était avec ses disciples au départ et puis il invita ses disciples à monter dans une barque et aller de l'autre côté de la mer. Et ainsi fut fait, les disciples prirent cette parole de Jésus, montèrent dans la barque et commencèrent à ramer pour atteindre l'autre côté du lac. Jésus lui monta sur la montagne pour prier à l'écart, est-il précisé, et nous savons que Jésus était un homme de prière et qu'il était, et cela est souligné, qu'il était véritablement le Fils de Dieu et qu'il allait prier son Père pour intercéder pour divers sujets, mais également pour qu'il soit lui-même renouvelé dans sa vie personnelle et notamment prendre conseil, connaître la volonté de Dieu, passer des instants merveilleux dans la présence de Dieu. Et là, j'ouvrirai une petite parenthèse simplement pour vous dire, frères et sœurs et amis, que passer des moments dans la présence de Dieu, il n'y a rien de plus merveilleux. C'est tout ? Il n'y en a pas beaucoup, alors, hein, qui passent des instants merveilleux. On passe des instants merveilleux dans la présence de Dieu, parce que tout comme le Seigneur Jésus, ceux qui vont vers lui, ceux qui s'attendent à lui, ceux qui l'invoquent, seront sans cesse renouvelés, bénis, délivrés, gardés, protégés, verront, comme il était écrit, la gloire de Dieu se manifester au travers de Jésus. Et déjà, je voudrais inviter peut-être quelqu'un cet après-midi à se tourner vers le Seigneur et à lui faire confiance. Parce que quand on fait confiance au Seigneur Jésus, on n'est jamais déçu. On est surtout déçu lorsque l'on place sa confiance dans l'homme. Mais celui qui place sa confiance en Dieu, et quand je dis homme, je veux dire être humain, parce qu'on pourrait dire, oh oui, on peut être déçu des hommes, mais les hommes pourraient dire, on est déçu des femmes. Non, c'est l'être humain qui est très important à souligner. On est déçu par l'être humain, mais de la part de Dieu, en Jésus-Christ, vous ne serez jamais, jamais déçu. Même dans les moments les plus difficiles, vous ne serez pas déçu parce que le Seigneur Jésus viendra toujours à votre secours. Alléluia. La preuve, le texte que nous avons lu, nous voyons bien dans ce texte que les disciples étaient en difficulté dans leur progression pour rejoindre l'autre rive. Et celui qui est venu à leur secours, alors qu'ils se débattaient dans la barque, car les vents, on l'a lu, étaient contraires. Les vagues tapaient sur la barque et commençaient à rentrer dans la barque. Les apôtres qui étaient là, qui étaient des pêcheurs au départ dans leur vie, des pêcheurs de poissons, bien sûr, je précise pour pas qu'il y ait d'erreur, connaissaient les difficultés en mer. Mais là, ils n'arrivaient pas à progresser. Et quand il est écrit « quatrième veille », cela veut dire qu'il était 6 heures du matin et ils étaient encore en train de ramer pour essayer de gagner l'autre rive. Quelle difficulté! Quel problème! Se sont déjà aguerris et ils n'arrivent pas à progresser dans ce combat avec la mer et avec le vent. Mais Jésus va venir. Alléluia. Je voudrais vous dire cet après-midi que nous sommes peut-être dans une même situation. Parce que quand on réfléchit deux secondes, Jésus va dire à ses disciples, montez dans la barque et allez de l'autre bord. Ce qui veut dire, vous êtes sur un bord, mais maintenant je vous invite à aller de l'autre bord. Et cela me fait penser qu'un jour nous sommes arrivés sur un bord de la vie. Pas ? C'est vrai ou pas ? Je pense que vous avez fait la même expérience que moi. Je dirais, comme des fois certains disent, je n'ai rien demandé et pourtant je suis arrivé. C'est-à-dire, je suis né. Hein ? Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je suis né. Mais une fois que j'ai pris pied sur la terre, donc sur le bord, vous allez me dire, et la vérité devant vous, j'ai grandi. Mais ce n'est pas ça qui veut voir. Je veux dire que j'ai même pris de l'âge. Et ça, je ne peux pas le cacher, j'ai même perdu des cheveux. Mais ça, c'est la vie. Tiens, je viens de prononcer quelque chose d'important là. Qu'est-ce que je viens de prononcer d'important? C'est la vie. Or, je suis né et je pars dans une direction nouvelle. Et entre la direction nouvelle, je sais où je suis né par contre. Je sais dans quelle ville j'ai vu ma naissance, on me l'a dit. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est où je vais atterrir. Vous non plus. On est bien d'accord là ? Mais entre le temps de ma naissance et le départ de cette vie terrestre, mais par contre, je sais où j'irai après la vie terrestre. Mais entre-temps, il y a ce que l'on appelle le passage de la vie. On est bien d'accord ? Le passage de la vie. Et là, il faut se mettre à réfléchir. Parce que le passage de la vie, ce n'est pas si facile que ça. Oh, quand on est tout petit, on s'aperçoit de pas grand-chose. C'est quand on commence à grandir. Quand on commence à devenir ado, jeune, et puis un peu moins jeune, et un peu plus âgé, et on va s'apercevoir que tout au long de notre vie, des problèmes vont surgir. Pas toujours de la tranquillité. Je dirais que la vie, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas un fleuve tranquille. Non. Vous aurez... Et peut-être quelqu'un cet après-midi se trouve dans cette situation. Vous aurez des épreuves, vous aurez des vents contraires, vous aurez de la difficulté, de quelque ordre que ce soit. On ne les attend pas. Aujourd'hui, on est bien portant. Demain, on peut déclarer un cancer. Et tout ce que ça importe dans le cerveau, comme difficulté, difficulté physique, difficulté morale, souffrance physique et la peur. La peur. Est-ce que demain je serai encore là? Que vont devenir la famille si on est marié avec des enfants? On est dans un gros et immense problème. Et on pourrait multiplier les exemples. La vie ne fait pas de cadeaux. Même si la vie nous apporte, quand on est marié, la joie d'avoir des enfants, la joie du mariage. Et encore faut-il que cette joie du mariage dure toute une vie. Des fois, ce n'est pas le cas. Il y a des séparations qui font mal. Vous savez, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. On se marie, aujourd'hui, on ne se marie plus, d'ailleurs, on vit comme ça. Mais dans notre temps, il fallait veiller à ne pas se divorcer. Et il y avait un petit peu cette pensée qui se dégageait, qui disait, les parents divorcent et les enfants, s'il y en a, ils trinquent. Parce que le divorce, c'est quelque part quelque chose d'égoïste quand on a les enfants. Aujourd'hui, on trouve ça normal. Cela est même dit, cela est même enseigné, cela est même approuvé. Mais la parole de Dieu ne dit pas ces choses. Mais ce n'est pas là le thème cet après-midi. Le thème, c'est que si tu es dans la difficulté, si tu es dans l'épreuve, si les vents te sont contraires, quelqu'un veut te secourir, quelqu'un veut t'aider, quelqu'un veut te libérer, quelqu'un veut te guérir, quelqu'un veut t'apporter la paix, quelqu'un veut t'apporter le calme. Ah oui, vous avez vu quand les disciples étaient en plein combat, ils n'arrivaient même pas trop à distinguer la personne qui venait à leur rencontre. C'est sûr que la personne qui vient à leur rencontre ne vient pas d'une manière ordinaire. Elle aurait pu venir sur une barque ou avec une barque. Mais non ! Cette personne qui arrive, qui n'arrive pas à distinguer à cause des éléments déchaînés, à cause de ceux qui sont là depuis toute la nuit en train de ramer, il y a beaucoup de difficultés, ils n'arrivent pas à distinguer que devant eux, celui qui s'approche s'appelle Jésus. Et si vous vous êtes étonné de voir, ou de lire, ou d'entendre que Jésus marche sur les eaux, je vais bien préciser en introduction, il n'y a rien d'étonnant que Dieu ne puisse faire. Jésus a le pouvoir de marcher sur l'eau. N'essayez pas, vous, de marcher sur l'eau. Parce que par expérience, j'ai essayé de marcher sur l'eau, j'étais toujours comme une pierre au fond de l'eau. Mais ça, Jésus était là, ça nous paraît étonnant qu'il vienne comme ça sur l'eau. Mais il est en train de montrer à ses disciples qui n'arrivent pas à distinguer qu'il a reçu de la part de Dieu toute puissance et tout pouvoir. Permettez-moi de dire, entre guillemets, rien ne résiste à Jésus. Même les puissances du malin ne résistent pas à Jésus. Il les a combattus et il sera toujours le vainqueur. Alléluia. Alors, bien sûr, pour les disciples, ils pensent qu'ils voient un fantôme. Il fallait qu'ils soient vraiment fatigués, hein, ou qu'il y ait de la brume pour ne pas reconnaître le Seigneur Jésus. Ça fait quand même plusieurs années, plusieurs temps, on va dire, qu'il y a au moins un an, deux ans, qu'ils sont avec le Seigneur Jésus, qu'ils le connaissent bien. Et là, ils ne le reconnaissent pas. Vous ne le connaissez peut-être pas, le Seigneur Jésus. Vous en avez vu des reproductions qui ne sont pas toujours avantageuses, avec des fois des moqueries sur la personne de Jésus-Christ. Mais j'ai la joie de vous dire que ce soir, le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Présent. Invisible, mais présent. Ce n'est pas un fantôme. C'est le Fils de Dieu ressuscité qui accomplit encore aujourd'hui des miracles. Pour celui qui s'attend à lui, pour celui qui croit en lui, pour celui qui accepte sa parole et sa présence, il est toujours celui qui fait le miracle. Et pour celui qui croit, qui lui demeure fidèle, tous les jours il fera des miracles. Il suffit de lui faire confiance. Et quand le Seigneur Jésus arrive et nous le comprenons, comme ils ne l'ont pas distingué, ils eurent peur. Laissez-moi vous dire, n'ayez pas peur de Jésus. Le Seigneur Jésus ne veut pas que vous craigniez au-delà des choses qu'il apporte. Il ne vous apporte, et j'aimais bien ce petit cœur, le vrai bonheur. Des petits cœurs comme ça que que l'on ne chante plus, mais qui sont tellement beaux, sont déjà des témoignages. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse Jésus entrer dans le cœur de ton voisin. Non, je me trompe là, hein, ma sœur. Ah oui, je me trompe, bien sûr. C'est... Laisse Jésus rentrer dans ton cœur. Seigneur s'adresse à toi cet après-midi. Il s'adresse à ton cœur, il s'adresse à ton esprit. Pour lui, tu es une pierre précieuse. Peut-être rejetée par les hommes, rejetée par la société. Tu es au bas, au fond, au profond. Tu es dans la tempête, tu es prêt à te noyer. À te noyer en quoi? Dans l'eau ou dans l'alcool? Ça aussi. Ou dans la drogue. Tu crois que ça va t'apporter la solution, ça? Mais tu vas devenir une épave. Il n'y a que le Seigneur qui peut te donner ce que ton cœur désire. Et ce que le Seigneur veut te donner par-dessus tout ce que tu désires, c'est le pardon de tes péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut faire ce miracle. C'est lui seul qui peut changer ta vie véritablement, de fond en comble, faire un ménage total pour que tout soit beau pour toi. Amen. Je ne sais pas, mes frères, mais je pense que oui, que vos épouses, eh bien, quand elles font le ménage, elles le font à fond. Et surtout, n'allez pas derrière votre épouse, mes frères ou monsieur, quand elle a fini de passer la serpillière. Tu passes là ? Là, j'ai exagéré sur le ton. Ah. Attends que ce soit sec ! Tu vas tout me salir. Et moi, j'ai passé du temps. Et le mari, il se fait pipi. Attendons que ça sèche. D'où, eh ben, puisque je ne peux plus rien faire, eh ben, je retourne à l'étude de ma Bible. Voilà. Amen. N'allez pas dire, ah ben puisque tu veux pas, il y en a qui agissent. Si tu veux pas, ben je m'en vais au bar. Tiens, pourquoi faire? Non, non. Bien sûr, c'est un exemple. Tout ça pour vous dire que quand le Seigneur vient, il fait place nette. Tout est nouveau, tout est beau, tout est formidable avec le Seigneur. Oui, mais ça n'empêchera pas que nous ayons aussi des tempêtes, des vents contraires. Mais ces vents contraires, et là, je m'adresse et vous me comprendrez, ces vents contraires sont faits pour fortifier notre foi. Ne dites pas tous Alléluia ou Amen. Parce que vous savez comme moi que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et que la foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est nous présenter un Jésus qui est merveilleux, un sauveur merveilleux. Quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui nous entoure, quelqu'un qui nous protège. Il est invisible, mais il est là, il est présent, il t'accompagnera tous les jours de ta vie. Et pendant que tu te reposeras sur un lit douillet, lui, il veillera encore sur ton sommeil. Connaissez-vous meilleur ami que ça? Non. Parce que lui, je le précise encore, ne vous trahira jamais. Mais sans vouloir non plus juger ou qui que ce soit ou quoi que ce soit, le meilleur des amis ici-bas pourra un jour nous trahir. Oui. Mais Jésus ne vous trahira jamais. La preuve, quand il voit, parce que le Seigneur Jésus a certainement vu ses disciples qui se battaient avec la mer qui était là et le vent si bourrasque. Oui. Eh bien, Jésus, lui, prend le moyen qu'il connaît le mieux pour prouver sa puissance, son pouvoir. Il vient vers eux en marchant sur les eaux. Amen. Alors, bien sûr, il y a l'étonnement, il y a la peur, il y a tout un mélange. Et puis, d'un seul coup, on entend une voix qui s'élève. Jésus dit, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Vous voyez, c'était déjà des paroles de réconfort. Et ces paroles de confort, vous pouvez les entendre cet après-midi, qui que vous soyez. N'aie pas peur, c'est moi Jésus, je viens en ton aide, je viens en ton secours, je viens pour te bénir, je viens pour agir, j'ai donné ma parole, j'ai donné ma vie sur la croix pour toi, alors viens vers moi. Ah oui, c'est ce qu'a dit Pierre en fait. Vous avez quand même remarqué ce qu'a dit Pierre? Non. Je ne vais pas relire le texte. Hein. Mais Pierre, quand il a entendu la voix de Jésus, il a dit, « Oh Seigneur Jésus !» Ou Jésus, si c'est toi, ordonne. Allez, ordonne que j'aille vers toi. Mais il ne faut pas le dire deux fois à Jésus. Hein. Ben, tu veux venir vers moi en marchant sur les eaux? Ah ben, viens. Mais là, je vais quand même atténuer un petit peu, si vous me permettez. Parce que le vent est contraire. La mer est un peu déchaînée. Je ne sais pas. Entre parenthèses, est-ce que vous êtes déjà allé dans une tempête avec un bateau qui est un paquebot? Il n'était pas paquebot toujours, hein, mais il était beau. Bon, il y en a qui ne suivent pas. Je disais donc qu'il n'était pas que beau. Vous voyez, j'ai vécu ça, moi, quand j'avais 16 ans. J'habitais Oran, à ce temps-là. Et d'Oran, on venait à Embrun. Donc, on traversait la Méditerranée. On arrivait à Marseille. De Marseille, on prenait le train pour aller jusque dans les Hautes-Alpes, à Embrun. Et au retour de ces belles vacances, parce que de notre temps, en tout cas, nous qui étions en Algérie, on avait l'avantage, plus que les gens qui étaient là, eux, ils venaient pour un mois. Nous, on venait pour 45 jours. Au bout de 45 jours, retour, on prend le train. Ça c'est ce bonnard. Enfin, c'était le train où il y avait encore des escarbilles. Hein. Il ne fallait pas mettre la tête paf dans l'œil. Hein. Aujourd'hui, vous avez le TGV, tout ça. Nous, c'était encore les machines à vapeur. Vous voyez que je suis jeune, hein, c'est bien. Alors, on arrive à Marseille. On dort sur Marseille. On nous amène... Ok, et là on prend le bateau, le temps il était un peu gris. Mais quand on monte dans le bateau, vous savez où il était le bateau? Dans le port. Je précise, parce que dans le port, la mer est calme. Ah, vous ne le saviez pas ça, hein? Et le temps est arrivé, et il faut sortir. Et le bateau, il sort. Et voilà qu'à quelques, on va dire... 1000 marins arrivés devant, je crois que c'est les îles Baléares, oui c'est ça, d'un seul coup, une tempête, mes amis, j'avais jamais connu ça. Et j'en ai jamais connu d'autres, parce qu'après, je crois que j'ai plus pris le bateau aussi, les petits bateaux mouches, là, ça va. Hein? Mais... Et vas-y que ça monte, et que ça descend. Ça encore, ça peut passer, enfin un temps, parce que ça nous donne l'impression d'être dans une fête foraine. Mais quand vous montiez, je vous le dis, hein, je ne peux pas mentir, Seigneur, tu le sais, quand on montait les escaliers pour aller au troisième étage, parce qu'en plus on était en fond de cale. Oui, oui, parce que vous comprenez. Alors, et quand on montait les escaliers, au moment où on lève le pied, pour mettre le pied sur l'escalier, vous aviez l'impression que l'escalier, il n'était plus là. C'est vrai. Mais c'est fou quand on est dans une tempête. Là, j'en ris maintenant, mais là, je peux vous dire que j'en menais pas large, comme on dit. Eh, vas-y, monte. Oh là là, ça a duré. Après, on a su des vagues dont la profondeur ou la montée, comme vous voulez, c'était de 7 mètres de haut. Et s'il n'y avait que le monter et le descendre, ça va. Mais c'est qu'en plus, vous êtes... Tiens bon la rampe. Oh. Oui, ça fait rire. Mais je vous dis ça pour vous dire que dans le monde, les tempêtes le sont comme ça aussi, dans notre vie. On ne sait pas où on va aboutir, on ne sait pas à qui se tenir, on ne sait pas s'il faut monter, descendre, avancer, reculer, on ne sait rien du tout. Parce qu'en fait, vous et moi, nous ne connaissons pas notre avenir. Un temps, il peut être calme, mais un temps, il peut être furieux. Sans savoir où nous allons trouver la solution, à qui s'accrocher, à qui s'attacher, vers qui se tourner, vers qui faire confiance. Jésus est là. Comme il est venu auprès des disciples. Et Pierre lui a voulu dire, ben, Seigneur, si c'est toi, donne-moi la joie de pouvoir marcher sur les eaux. Et Jésus lui a dit, viens. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour Pierre, il a quand même osé. Non ? Il a osé. Je ne sais pas ce que nous aurions fait. Mais lui, le vent est contraire, la mer est un peu déchaînée, Jésus lui dit, viens, il met une patte, une jambe, je vais dire une patte, une jambe par-dessus bord, il a peut-être tâté, hein. Ça tient, je vais mettre la deuxième, allez, hop. Et là, toujours, peut-être assis sur le bord de la barque, il dit, oh, ça a l'air de tenir. Il se lève, il fixe les regards sur Jésus, et il marche sur l'eau. Formidable. Gloire à Dieu. Jésus lui a donné la puissance de marcher sur les eaux. Mais maintenant, faisons bien attention à ce qui est écrit et que nous avons lu. C'est qu'il s'est enfoncé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il s'est enfoncé? Est-ce que vous avez la réponse? Il ne regardait plus vers Jésus. Son regard était parti de Jésus. Il ne le fixait plus. Vous savez ce que nous enseigne le disciple, enfin, un des apôtres plutôt, dirons-nous. Ayez toujours les regards fixés sur Jésus. Il est le chef et le consommateur de notre foi. On parlait de foi tout à l'heure. Vous voulez que dans votre marche, dans votre vie, voir la gloire de Dieu, que nous soyons croyants ou non-croyants, nous voulons voir la gloire de Dieu, acceptons le message de l'Évangile, bonne nouvelle. Acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Faisons-lui confiance dans sa parole. Pierre est sorti parce qu'il s'est confié à la parole. Viens ! Alors il s'est levé, il est allé. Mais dès qu'il a dévié son regard pour voir ce qui se passait sous ses pieds parce que la mer le chatouillait et que le vent était contraire, c'est là qu'il a sombré. Alors je vous cite simplement cette autre parole de Jésus. Quelle que soit la situation, ne regarde ni en bas, ni en haut, ni en droite, ni à gauche. Regarde sur lui. Ne crains pas. Crois seulement. Crois à la parole. Crois au nom de Jésus. Crois à la puissance de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Croire. Dans des situations les plus en plus précaires, il nous faut croire. Croire non seulement pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera, mais croire, parce qu'au-delà de nous bénir sur cette terre, il est celui qui pardonne nos péchés, c'est vrai, mais il veut et il le fait préparer pour chacun une place dans le ciel. N'a-t-il pas dit, je m'en vais et je vous préparerai une place dans le ciel, afin que là où je suis, vous, nous tous, si nous croyons, si nous vivons, si nous lui faisons confiance, nous soyons avec lui dans la gloire. C'est pour cela qu'il a donné sa vie sur la croix. Vous savez, et je terminerai par là, dans ce passage où Pierre s'enfonce, Pierre va crier, « Seigneur, sauve-moi !» Et vous avez vu la réponse de Jésus ? « T'as pas cru ? Cool !» Je me trompe ou quoi ? Non, je vous dis ça pour vous faire réfléchir. Parce que Jésus, dès que Pierre a reconnu qu'il était impuissant, qu'il ne pourrait rien faire contre les éléments déchaînés, même qu'il a eu cette possibilité et que la crainte et la peur sont venues l'envahir et qu'il a perdu du regard, Jésus, il a enfoncé. Et quand il dit « Sauve-moi », Jésus va lui tendre la main. Le prendre et le faire rentrer à nouveau dans la barque qui s'appelle, parce qu'ils vont arriver sur l'autre bord, qui s'appelle la barque du salut. C'est moi qui lui donne ce nom, la barque du salut. Alléluia. Ils sont tous arrivés sains et saufs de l'autre côté. Et ce que je vous disais tout à l'heure, avoir la vie éternelle, c'est avoir le salut. C'est vrai que nous devons passer une vie ici-bas, et soyons assez honnêtes pour dire plus ou moins longue, les uns pour les autres. Mais l'essentiel, c'est d'arriver sur l'autre bord. Non pas dire « ma vie va se terminer dans un trou entre quatre planches ou autre ». C'est de dire « ma vie va s'arrêter ici, mais elle va continuer dans le ciel, là-bas, au salut ». Un salut éternel. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut pour vous cet après-midi. Oui, il veut vous saisir par la main. Il veut vous réconforter. Il veut vous délivrer. Il veut vous sauver. Il veut vous délier de vos craintes, de vos peurs, de celles de résister à lui. Faites-lui confiance. Invoquez-le. Seigneur, sauve-moi. Mais si vous êtes sincère dans votre cri, le Seigneur vous sauvera. Et le salut ne sera pas uniquement lorsqu'on sera là-haut. Il va commencer ici-bas sur la terre. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Moi, je ne connais pas vos vies, mais je sais que le Seigneur est tout puissant pour vous libérer de ce qui vous accable, de ce qui vous gêne, de ce qui vous lie. Est-ce que j'aurai 5 minutes pour donner un témoignage? Je me permets de le lire parce que je ne voudrais pas me tromper. Et ça peut-être en cet après-midi concerner quelqu'un, on ne sait pas qui est au milieu de nous, mais peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ceci. C'est l'histoire d'un pauvre garçon, je ne dis pas de nom, hein, abandonné très tôt par les siens et élevé par la DAS, qui s'engagea comme marin-pêcheur. Vous voyez, c'est un témoignage qui concorde un peu ce que nous avons médité. Sur un bateau qui faisait compagnie à Terre-Neuve, restant aussi en mer, pendant de longues années que dure la campagne. Celle-ci terminée, toute la flottille regagnait le port d'attache et c'était alors le grand débordement, le comportement des gens qui descendaient de ce bateau. On se répandait dans tous les lieux de divertissement. Bientôt, les ressources s'épuisèrent, ressources pécuniaires en tout cas. Comment y remédier? Le plus vieux suggéra d'aller explorer une petite supérette un peu éloignée du centre-ville afin de s'y procurer quelques subsistes, argent, boissons, pour continuer la fête. On remit à notre garçon une arme, avec pour mission de prévenir les autres dans le magasin, mais au bruit qu'ils firent, le gérant habitant à l'étage descendit voir ce qui se passait. Alors M, pris de panique, fit usage de son arme. Et ce fut le drame. Il s'est mis dans une sacrée tempête. Reconnu coupable de meurtre, il fut condamné à la peine capitale. Durant son incarcération, un visiteur vint le voir. C'était un chrétien qui, devant ses regrets et son état d'accablement et de tristesse, lui parla de Jésus et de son merveilleux pardon qu'il accorde à tous les pécheurs qui se repentent, comme le brigand sur la croix. Mais c'est vrai que le brigand sur la croix, on ne va pas en parler, mais il s'est repenti de sa vie gâchée, minable. Et il demandera pardon au Seigneur avec cette phrase que vous connaissez tous, « Souviens-toi de moi lorsque tu rentreras dans ton règne au paradis. » Et Jésus lui répondit aussitôt dans sa repentance, « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et pourquoi pas vous? Écoute encore la fin de ce témoignage. Il vint souvent le voir, ce chrétien, pour lui parler de son âme. Mais Monsieur M, c'est-à-dire ce garçon, ne semblait pas comprendre quand le visiteur lui demanda comment il faisait quand un homme tombait à la mer. Mettez-vous une embarcation à l'eau, posera ce chrétien. Mais lui répond, pas du tout. Oh, on cherche d'où proviennent les cris et une fois repéré, on lui lance un câble avec une bouée au bout. Il saisit la bouée, on le remonte sur le pont car il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Vous avez bien entendu ça? Pas d'autre moyen pour être sauvé. Eh bien, vois-tu, reprit le visiteur chrétien, l'homme tombé à la mer, c'est toi. Et peut-être il y a quelqu'un qui est tombé à la mer là cet après-midi. Il est sur le point de se noyer, sur le point de s'enfoncer dans le péché, l'iniquité, la perversité, de commettre peut-être quelque chose de vil, de méprisable. Après, s'il met un acte en action comme ce garçon, de commettre un meurtre. Et le visiteur lui dit, l'homme tombé à la mer, c'est toi. Dieu là-haut te jette le câble, car il a entendu tes appels de détresse. La bouée, c'est Jésus-Christ, son Fils, le secours divin. Et ce chrétien d'ajouter, si tu le saisis, il te fera remonter en sécurité auprès de lui, car il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé, pour être transformé, pour devenir une nouvelle créature, pour devenir quelqu'un de bien, quelqu'un qui aura la paix de Dieu. Alléluia. Et nous voyons quelques temps plus tard, là je résume un peu, il dit que l'heure arriva où ce jeune homme dut payer sa dette à la société. Quelque temps plus tard, son avocat rencontra le visiteur. Donc, quand il est dit « payer la dette à la société », c'est que la vie lui fut ôtée. Quelque temps plus tard, son avocat, rencontrant le visiteur, c'est-à-dire le chrétien, lui dit « Monsieur, donc ce jeune homme-là, ou cet homme jeune, m'a dit, si vous voyez le visiteur, dites-lui que j'ai compris et que j'ai saisi la bouée. » Quel merveilleux témoignage. Et si c'était toi cet après-midi? Si c'était toi que le Seigneur appelle? Si c'était lui qui est en train de te dire, j'ai entendu tes cris de détresse. Je t'ai entendu dans ta souffrance. Je t'ai vu dans ta souffrance. Et je viens vers toi. Je jette, non pas un câble, mais je te jette le bras d'amour. J'ai donné ma vie pour toi. C'est un lien d'amour que je te tends. Prends ma main afin que tu sois sauvé. Pierre a pris la main et il est remonté dans la barque. Ce garçon a saisi la main que Dieu lui tendait par cette expression. J'ai saisi la bouée. Il était en train de dire, j'ai saisi Jésus dans ma vie. J'ai tout compris. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi cet après-midi? Pourquoi ne pas être libéré de ce qui accable ta vie? Pourquoi rejeter Jésus alors qu'il t'aime d'un amour infini? Pourquoi? Il a payé de sa vie pour que tu sois sauvé, comme il m'a sauvé. Alors aujourd'hui, c'est à toi de dire, Seigneur, saisis ma main. Tu me tends ta main. Prends ma main. Je veux vivre avec toi. Je veux te faire confiance. Je veux que tu renouvelles ma vie. Je veux que tu me changes dans ma façon de faire, dans ma façon de dire. Je veux devenir une créature nouvelle par ta grâce. Fais de moi un enfant de Dieu, héritier de la vie éternelle. Viens, Seigneur. Fais de moi un homme nouveau, une femme nouvelle, un jeune transformé pour ta gloire. Et si tu lui donnes le temps ou la force de te servir, viens Seigneur, viens. Prends-moi tel que je suis Seigneur et fais ton œuvre en moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions ensemble Seigneur. Amen.